Est écrite religieuse par le père Philippe à Saint-Joseph le 21 février 90.
Peut-on préciser laquelle de ces attitudes, celle de l'adoration et celle d'abandon, est première dans l'ordre génétique? Si l'abandon est condition sine qua non de l'adoration, l'attitude d'abandon n'est-elle pas première? Si l'attitude d'adoration engendre une attitude d'abandon, peut-on encore dire qu'il y a un acte propre d'abandon? Alors essayons de reprendre ce problème important. Une éthique religieuse. Qu'est-ce qui est premier? C'est reconnaître la dépendance totale, radicale, dans laquelle on est à l'égard du Dieu créateur. En reconnaissant que l'acte créateur par lequel Dieu a créé notre âme est un acte d'amour, de surabondance d'amour. Et nous répondons à cet acte autant que nous pouvons par l'acte d'adoration. Oui, l'adoration n'est pas une attitude, elle est un acte volontaire. Cette connaissance repose ou sur les traditions religieuses ou sur une connaissance personnelle qui est proprement d'ordre philosophique, théologie naturelle ou la foi surnaturelle. Les trois peuvent du reste conjuguer. D'impossibilité. Mais au sens strict, dans une éthique religieuse, c'est une connaissance philosophique de la création qui exige de nous cette attitude, cet acte d'adoration. Ce respect d'amour à l'égard de celui qui est source de tout notre être. Donc acte volontaire qui correspond à la connaissance que nous avons de l'acte créateur de Dieu sur nous. Et les actes d'adoration répétés, ponctuant notre vie, nous conduisent à cette attitude d'abandon divin, c'est-à-dire de remise complète de tous nos désirs à la volonté de Dieu sur nous. J'avais dit bien distingué l'abandon divin, donc l'abandon qui relève de l'éthique religieuse, et l'abandon psychologique. L'abandon psychologique est un étang psychologique de celui qui n'a plus assez de volonté pour orienter sa vie dans le sens de sa finalité. L'abandon psychologique n'est pas du tout une qualité. C'est un état de fragilité, de faiblesse, de manque de force en abdique. Alors on descend le fleuve, on fait comme tout le monde, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est l'abandon psychologique, descendre le fleuve. Et les cadavres le descendent plus vite. Ce qui veut qu'on est toujours bête, tu prends les cadavres. Et on n'est jamais dans un état vraiment humain. L'abandon psychologique est un état infra-humain. Ça peut devenir une maladie. Celui qui n'a plus assez de force, assez de volonté. Comme je te pousse. Vous prenez la couleur de la cuillère qui vous reçoit. Vous êtes complètement dans un état de déliquescence. Ça, c'est l'abandon psychologique. L'abandon divin est au contraire une orientation très nette. Notre vie veut être en conformité plénière avec la volonté du Père sur nous, et nous voulons nous remettre entièrement à cette volonté du Père. Et c'est la volonté du Père qui nous conduit. Vous voyez, c'est l'attitude fondamentale pour laisser Dieu nous diriger. On se met entre ses mains, in manus tuas, et se remettre entre les mains de Dieu. C'est justement considérer que la volonté de Dieu doit toujours être première dans notre vie. On laisse Dieu passer devant. Toujours. Et on veut adhérer pleinement à cette volonté de Dieu sur nous, considérant que cette volonté de Dieu sur nous, c'est la meilleure des choses pour nous. Rien ne peut être plus grand pour nous que d'accomplir cette volonté de Dieu. C'est un état, l'abandon. Oui, état psychologique ou état volontaire qui est le résultat de l'adoration. Vous ne pouvez pas vous mettre dans l'abandon spirituel, divin, sans l'adoration. C'est pour ça que je dis que c'est le fruit de l'adoration. C'est vraiment un résultat. Conséquence. Celui qui adore spontanément et dans une attitude progressivement, celui qui a l'habitude d'adorer, c'est pas un acte d'adoration dans notre vie qui nous mettra dans l'abandon. Non, sûrement pas. Il faut être habitué à faire ces actes d'adoration, ponctuer notre vie par des actes d'adoration, pour que progressivement nous entrions dans cette attitude spirituelle qui consiste à se remettre entre les mains de Dieu. C'est le résultat. Donc, ne disons pas que l'abandon est une condition sine qua non de l'adoration. Parce que je ne suis pas abandonné spontanément. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non de l'adoration. L'adoration est un acte qui me met face à Dieu, face au Créateur, et qui me fait entrer dans cette intimité avec le Créateur. Je reconnais qu'il a toute autorité sur moi, tout pouvoir sur moi, que je suis entre ses mains. Alors évidemment, quand je dis que c'est une attitude, ça implique une attitude volontaire. Donc, il y a quand même un acte d'abandon comme résultat de l'adoration. Et cet acte d'abandon consiste à dire à Dieu qu'on s'en remet entre ses mains. On veut être conduit par Dieu. Vous voyez la différence? C'est que d'un côté, on reconnaît que Dieu est présent par son acte de créateur, qu'il est présent à mon âme, plus présent à mon âme que mon âme est présente à elle-même. Je reconnais cette présence d'immensité du Dieu créateur sur moi. Et je l'adore. Je l'adore, je ne soit jamais ce qui me conduit en premier lieu. Je laisse Dieu passer devant dans ma conduite personnelle, individuelle. Vous voyez donc, l'un regarde l'acte créateur, l'autre regarde le gouvernement de Dieu sur moi et la providence de Dieu sur moi. En laissant la volonté du Père s'emparer de tout moi-même. C'est ce que je désire, c'est que la volonté du Père s'empare entièrement sur moi, c'est que la conduite du Père soit parfaite sur moi. Donc vous voyez bien, il y a deux actes qui s'impliquent l'un dans l'autre pour comprendre le gouvernement de Dieu sur moi et la providence de Dieu sur moi. Il faut comprendre l'acte créateur. C'est pour ça que l'acte d'adoration est premier. Parce que justement, je ne peux pas saisir combien Dieu me prend en main si je ne vois pas qu'il est mon créateur. C'est une conduite intérieure de Dieu. Les autres personnes me conduisent de l'intérieur, de l'extérieur. Moi, je me conduis de l'intérieur. Quand je me conduis volontairement et humainement parlant, je choisis, j'opte de l'intérieur. Ma fin, il y a quelqu'un qui me conduit dans une intériorité encore plus grande. C'est Dieu, en tant qu'il est providence, en tant qu'il est créateur. Alors, il me conduit dans une intériorité encore beaucoup plus profonde, beaucoup plus divine. Je crois que ça, vous pouvez tous bien comprendre. S'il y a des questions là-dessus, posez-les tout de suite, oui.
Est-ce que l'abandon n'est pas le caractère propre de la prudence en éthique religieuse ?
Oui, d'une certaine manière. Parce que justement, ça regarde la conduite, voyez. Mais l'acte de prudence est déjà présent dans l'adoration. Puisque ça implique, voyez, une connaissance à l'égard de Dieu. Une connaissance, si vous voulez, elle est pratique et en même temps, elle est radicale. Cet acte d'adoration, c'est quelque chose qui implique quelque chose de radical. Et donc la prudence religieuse joue là. C'est même le premier acte de prudence religieuse. Je reconnais qu'il y a une source de mon être, de mon intelligence, de ma volonté. Et je me remets entièrement en adorant. Oui. Donc la prudence est déjà présente. J'en ai pas parlé parce que je comptais parler de la prudence après, mais on peut tout de suite le dire, c'est que l'acte d'adoration implique une prudence. Et une prudence avec un caractère particulier. Oui. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Tout acte volontaire humain implique la prudence. Or, cet acte d'adoration qui est la remise totale de tout moi-même entre les mains de Dieu, qui regarde plus, voyez, plus que tel ou tel acte. Ça regarde mon être, ça regarde mon âme et mon corps qui est remis entièrement entre les mains de Dieu. Ça implique cet acte de prudence qui comprend que Dieu est créateur. Dans l'ordre pratique, c'est là, si vous voulez, c'est l'application immédiate dans l'ordre pratique de ce que je connais dans la sagesse que Dieu est créateur. La conséquence pratique de cette connaissance de sagesse Dieu est créateur, c'est immédiatement me remettre à lui. Le reconnaître qu'il est pour moi-même. Parce que Dieu est créateur, je le reconnais pour tous. Quelle est la conséquence pour moi, un acte de prudence ? Quelle est la conséquence pour moi ? C'est qu'il s'agit de l'adorer. Et que c'est la seule manière d'être vrai à son égard. Et que cet acte est propre à l'égard du Créateur. Je remets tout entre ses mains. Et je le laisse. laisse passer devant moi. Et je l'aime dans son amour même de créateur. Vous voyez, c'est très intérieur l'acte créateur, l'acte d'adoration. Et ça regarde plus que ma vie, ça regarde mon être. Alors, il y a évidemment un acte de prudence qui suit. Me remettre à sa conduite. S'il est le créateur de mon âme, il est aussi le père de ma vie. Et donc, s'il a créé mon âme, il a sur moi une intention de vie, une orientation de vie. Et cette intention de vie et cette orientation de vie, je la saisis par cette prudence religieuse. Et c'est pour ça que je me remets entièrement entre ses mains, pour que ce soit l'intention de vie de Dieu sur moi qui se réalise en premier lieu. Donc je laisse Dieu passer devant, la volonté de Dieu sur moi, je laisse passer devant. Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
Est-ce que l'adoration,
non, c'est la prudence. La sagesse consiste à reconnaître que Dieu est créateur. Mais cette sagesse appliquée à moi concrètement implique cette prudence religieuse qui commande mon acte d'adoration. Vous voyez ? Ce sera le passage de l'adoration à la contemplation qu'on verra, qui exigera l'acte de sagesse. Elle est un acte et elle se traduit dans une disposition. Je ne crois pas qu'elle est un habitus. Je ne crois pas. Au plan religieux, je n'oserais pas le dire. Parce que ce serait un habitus qui serait dans la volonté. Vous voyez ? Et je crois que c'est pour ça qu'il faut multiplier les actes d'adoration. Si c'était un habitus, on n'aurait pas besoin de multiplier les actes d'adoration. Et dès que vous êtes en face d'une difficulté, que, je ne sais pas, que le tonnerre tombe sous vos pieds, n'est-ce pas, que l'ennemi est là, qu'il y a un signal d'alarme, que voleur est présent, il faut immédiatement faire un acte d'adoration pour ne pas bouger. Autrement, toute la chapelle se viderait.
Quand vous dites un état, est-ce que c'est une disposition stable ?
Oui, oui. C'est une certaine disposition stable parce que ça touche. Mais on ne peut pas dire que c'est un habitus, je ne crois pas. Mais c'est la disposition la plus stable qui est en moi. C'est ça que je dirais, moi. Mais on peut discuter, savoir si au fond, de fait, on peut acquérir un habitus là. Non, l'abandon psychologique, vous met dans un état d'inhibition et vous n'agissez pas du tout. Il faut prendre, c'est comme l'âme qui ne veut pas avancer. L'abandon psychologique nous annihile complètement. Vous voyez ? Il ne fait pas agir. Tandis que l'abandon divin, on n'a qu'un seul désir, c'est de coopérer avec Dieu. Mais on s'abandonne pour ne pas avoir une attitude, vous voyez, précipitée. Donc c'est d'empêcher cette précipitation. C'est d'empêcher cette initiative trop rapide. Vous voyez. Mais ça nous fait agir. Tandis que l'abandon psychologique. Hein.
Il faut même quand vous dites que l'acte d'adoration nous ouvre à l'intention de vie que Dieu a sur
ouais.
Nous.
Non. C'est l'abandon. Sur l'intention de vie, c'est l'abandon. Hein.
Est-ce que dans une éthique religieuse, alors nécessairement, l'adoration et l'abandon nous conduisent à la découverte de Dieu comme étant une personne ?
C'est évident. Mais la métaphysique m'a fait tout de suite découvrir que Dieu est une personne. Je ne peux pas découvrir Dieu sans savoir que c'est une personne. Vous voyez, je ne découvre pas Dieu du tout comme premier moteur immobile. actuellement toute la physique avec Arimond, et je vois de plus en plus que c'est vraiment une totale incompréhension d'Aristote quand on dit ça. Aristote veut montrer, au point de vue critique, que le monde physique ne peut pas exister sans qu'il y ait une autre réalité. Et c'est une condition sine qua non de l'existence de notre monde physique. Donc c'est pas du tout la découverte de l'être premier, Dieu. Oui. L'éthique religieuse applique tout de suite l'adoration.
Nous n'avons pas creusé suffisamment de pensées, nous n'avons pas creusé suffisamment de recherches.
Voilà. Si dès que vous creusez pour voir le fondement de l'éthique religieuse, vous voyez que c'est la découverte de Dieu créateur. Ça ne peut pas être autre chose. Autrement, vous restez, voyez, dans le vague. L'homme a besoin de l'attitude de Dieu. Donc c'est la religiosité. Ce n'est pas l'éthique religieuse. Alors qu'il peut prendre des formes très, très diverses. En disant la religiosité, vous voyez, c'est comme une exigence d'avoir quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Mais ce n'est pas Dieu créateur. Dès que vous découvrez, les traditions religieuses peuvent conduire à ça. Ça, je suis d'accord. Parce que les traditions religieuses ne sont pas suffisamment purifiées. Alors elles peuvent conduire à une attitude d'abandon, une attitude de remise, voyez. Mais si je prends l'éthique religieuse au plan philosophique, c'est-à-dire à partir de la découverte de Dieu et du Dieu créateur, c'est immédiatement l'adoration. Vous comprenez, dans une analyse de l'éthique religieuse, je mets l'adoration avant. Bon, c'est très possible que beaucoup, on leur fait faire des actes d'adoration comme des gosses, ils ne savent pas très bien ce que ça veut dire, hein, Dieu créateur. Ah, il y a quelqu'un, et devant. Alors c'est très possible que dans l'éducation religieuse, l'attitude d'abandon qui est plus proche de nous, vous voyez, qui est moins radicale, puisque c'est le fruit, apparaissent comme première. Mais elle ne peut pas se justifier sans la création, sans que Dieu soit père. Vous voyez. Alors, je suis d'accord, ça je ferais voir point de vue pratique. Je suis d'accord. Ah oui, c'est pas un acte d'abandon, l'adoration. L'adoration, c'est la remise radicale, la reconnaissance radicale de notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Oui, c'est la différence entre l'attitude de l'être et de l'orientation vers la fin. Je dirais l'adoration, c'est la structure de l'éthique religieuse. Et l'abandon, c'est à l'égard de la finalité. Il y a deux aspects qui demeurent. Or, l'éthique religieuse se fonde, elle, directement sur le point de vue du Dieu créateur. Vous voyez ? Donc, il y a les deux aspects qui se complètent. Et c'est très vrai qu'au niveau de notre psychologie, vous voyez, c'est que... Mais c'est toute l'attitude de religiosité qui très, très facilement, affectivement, enveloppe une attitude d'une éthique religieuse. La dévotion, si vous voulez. C'est pas de la dévotion, mais c'est analogue. Oui.
Est-ce qu'il peut y avoir une adoration dans un polythéisme ?
Tout dépend vous découvrez qu'il y a un Dieu suprême, Zeus. Vous voyez, chez les Romains et chez les Grecs, Zeus était reconnu quand même comme le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et donc, on reconnaissait qu'il fallait remonter jusqu'à lui, bien qu'on, qu'il démurge. Mais, alors lequel était adoré, le démurge ou le Dieu des dieux? C'est pour ça que l'adoration n'était pas aussi nette, aussi pure, elle impliquait des choses secondaires. C'est pour ça que lorsque l'adoration ne repose que sur les traditions religieuses, elle n'a pas cette limpidité. Et à ce moment-là, il peut très bien se faire, en raison d'une religiosité, l'abandon apparaisse comme premier. Vous voyez, chez les stoïciens, par exemple, ce serait très intéressant d'étudier avec exactitude si, pour Épictète, l'abandon n'est pas premier par rapport à l'adoration. Ce serait intéressant. J'ai étudié Épictète, mais je ne l'ai pas. À ce moment-là, quand je l'ai étudié, je ne faisais pas avec autant de précision savoir si c'était l'abandon. Il demande l'abandon. Cet abandon implique une certaine adoration. Alors quand l'adoration n'est pas très nette, je crois qu'en effet, on passe de l'un à l'autre avec.
Parce que faire la volonté de Zeus, c'est l'abandon.
Oui, vouloir faire la volonté. Se conformer notre volonté à la volonté de Dieu, c'est l'abandon. C'est pas l'adoration. Oui. Alors c'est pour ça qu'on peut très bien reconnaître que Dieu est tout puissant, qu'il y a un démiurge qui travaille pour lui. Parce que c'est ça le démiurge. Le démiurge, c'était l'ouvrier céleste qui travaillait pour Dieu. Et c'était avant tout la toute-puissance. C'était Zeus au-dessus. Même dans Platon, quand vous regardez le Démiurge dans Platon, dans le Timée, vous voyez bien que le Démiurge, il travaille pour Dieu. C'est pas digne de Dieu de créer, parce que c'est le travail. Alors il a des mains sales. Alors il faut le laisser au Démiurge. Alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir une adoration aussi limpide. Puisque je crois que quand on découvre vraiment, le Créateur, c'est immédiatement l'acte d'adoration qui est impliqué. La toute-puissance aimante du Père qui a créé notre âme. Et l'abandon suit. Parce que ce Dieu qui est Père ne peut pas nous abandonner. Il nous dirige. Parce qu'il nous dirige, on se remet à lui. On ne veut pas résister. Alors on coopère dans cette attitude d'abandon. On veut soumettre notre volonté à la sienne. On veut coopérer.
Est-ce que la connaissance de Dieu comme fin de la créature est une connaissance pratique ou spéculative?
Elle est au-dessus des deux.
Comment en est-il?
Parce que la découverte de Dieu est déjà un acte de sagesse qui est premièrement spéculatif mais qui implique le point de vue pratique. Dès qu'on entre dans la théologie naturelle par la découverte de l'existence de Dieu, on est dans une sagesse. On n'est plus dans une science. Or la distinction du spéculatif et du pratique est avant tout une distinction au niveau de la science. Vous êtes au-dessus. Dans la sagesse, il y a éminemment l'aspect pratique dans le point de vue spéculatif, dans le point de vue contemplatif.
Est-ce que l'abandon regarde plus la passion dans le sens qu'on subit l'action de Dieu ou l'acte à l'intérieur de cette passion?
Ah, c'est pas au niveau passion, c'est au niveau de la volonté. Alors, on bâtit, si vous voulez, mais dans le sens bâtir, de celui qui accepte d'être second. et de tout recevoir d'un premier, qui est Dieu. Vous voyez ? Alors la reconnaissance de la priorité absolue de Dieu comme créateur, c'est l'adoration. Et la conséquence, c'est de le laisser nous diriger. Et c'est deux choses différentes. Pour nous, il y a deux actes différents. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas au niveau passion, sensible, qu'il y ait une répercussion, on le verra, dans le point de vue du sacrifice. Mais ici, j'étudie l'adoration comme un acte intérieur et volontaire, à partir duquel va apparaître la vertu de religion. Bon, je continue. L'adoration et l'abandon vont être source d'autres actes religieux. Le point de vue de la louange. Alors, vous voyez, là, tout de suite, on va voir, et c'est intéressant à noter, que l'éthique religieuse va tout de suite avoir comme une exigence communautaire. Qui n'est pas premièrement la famille. C'est les créatures qui ensemble vont louer Dieu. Je crois que c'est le premier acte de l'éthique religieuse communautaire. C'est la louange. L'adoration étant le premier acte personnel. Tandis que la louange est un acte communautaire. On peut louer seul, c'est évident. Mais on aime mieux louer avec les petits oiseaux. On aime mieux prendre à témoin le vieil âne et les gros poissons et la baleine. On prend tout à témoin et on prend l'homme à témoin. Et on prend le prêtre à témoin. Vous voyez le grand cantique, hein, la grande louange qui loue Dieu. Il y a tout de suite, alors ça c'est très curieux et c'est intéressant au point de vue éthique religieuse. Il y a tout de suite au point de vue éthique religieuse le regard de la créature qui sent sa fragilité, sa faiblesse, qui sent son caractère trop particulier pour pouvoir louer vraiment Dieu. Alors, elle a besoin de prendre à témoin toutes les créatures. Dans l'adoration, on reconnaît que Dieu est créateur de tout l'univers. Et donc, dans l'adoration, l'homme est un peu le roi des créatures qui reconnaît que Dieu est créateur. Dans la louange, l'homme, reconnaissant qu'il est créé par Dieu, a besoin du concours de tous les autres hommes pour louer davantage Dieu. C'est très curieux comme attitude différente. Et je crois qu'il y a quelque chose là de tout à fait juste. C'est que l'aspect communautaire est tout de suite lié à la louange. Avec le chant, avec la musique, les instruments de musique qui, tout de suite, louent Dieu. Oui, et l'instrument de musique, c'est qu'il faut que tout l'univers loue Dieu. Alors l'art qui se sert de la matière pour louer Dieu, pour accompagner la voix de l'homme et le chant de l'homme, pour le permettre d'être plus universel. Il y a un caractère d'universalité qui me semble très important à souligner dans la louange religieuse. Et c'est ce caractère universel qui justement fait que la louange devient louange religieuse. Parce que quand vous louez un homme de sa gloire, de ses hauts faits, ça reste toujours particulier, ou ça se limite à un pays. Sauveur de l'humanité, c'est rare. Hein. Tandis que sauveur d'un peuple, alors vous le louez, la louange. La louange d'un homme qui sauve son peuple. La louange d'un Dieu créateur de tout l'univers. Alors il y a cette dimension d'universalité de la louange. La louange, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu sur nous. La louange, c'est reconnaître comment la conduite de Dieu sur nous est grande et belle, et que Dieu nous conduit avec ce désintéressement absolu qui relève de sa bonté. On le remercie de nous conduire de cette manière si admirable que ce n'est pas son intérêt qu'il regarde en premier lieu, mais c'est nous et l'amour qu'il a pour nous. Ça, c'est impliqué dans la louange. Oui, et c'est bien une conséquence de l'adoration. C'est parce que quand Dieu crée, il crée non pas pour son intérêt, mais par pure surabondance, qu'il peut nous gouverner avec cette libéralité absolue et cette miséricorde. Il y a bien la justice qui est présente, et on reconnaît cette justice. Parce que justement, l'homme ne se conduit pas toujours comme il devrait se conduire. Alors là va apparaître quelque chose de nouveau à l'intérieur de la louange, qui reconnaît la conduite de Dieu universelle, merveilleuse miséricorde et qui n'abandonne pas la justice. C'est peut-être par la louange qu'on reconnaît en premier lieu, voyez, la conduite de Dieu juste et miséricordieuse sur nous, sur les hommes. Et la louange va se transformer en demande et en action de grâce. À l'intérieur de la louange, on demande à Dieu de continuer cette attitude de bonté, de miséricorde auprès de nous. Alors, vous voyez, la louange nous fait demander. Et on comprend très bien pourquoi. Parce que par la louange, les merveilles de Dieu sur nous, les bienfaits de Dieu sur nous sont présents. Et quand notre voisin remercie Dieu de tels bienfaits et que nous n'avons pas, nous demandons de l'avoir. Et c'est comme ça, c'est évident, ça fait partie de cet éveil d'une demande à l'intérieur de la loi. Vous voyez, quand vous ne louez plus Dieu, vous ne demandez plus rien. C'est très curieux, ça. On ne sait plus quoi demander à Dieu quand on ne le loue pas. Ah, oh, je ne sais pas quoi demander à Dieu, mais est-ce que vous le louez? Ah non, c'est pas étonnant. La source est arrivée. Tandis que quand vous mettez à louer Dieu, alors immédiatement, la demande vient. Et les demandes viennent, on demande à Dieu la santé, on demande à Dieu la réussite de tel examen, on demande à Dieu d'être bonne humeur durant la journée, parce que on était très mauvaise humeur hier. Alors on demande à Dieu, malgré le mauvais temps, d'avoir un soleil dans notre cœur. interrogation. Pouvons-nous essayer de comprendre le fondement théologique au plan religieux de ces différentes activités? Alors je mets adoration. C'est radical. Adoration, abandon. Et action de grâce. faut l'adoration. L'abandon, présence, immensité, c'est sûr. Et louange et demande, c'est de fait lié à cette présence, immensité d'un Dieu qui gouverne dans la miséricorde et la justice. L'immutabilité étant liée très fort à l'éternité. Ça, c'est sûr. Alors, peut-on mettre un lien entre l'immutabilité et la louange? J'en suis pas sûr du tout. Je crois que abandon, louange et demande représentent beaucoup plus l'aspect de cette présence immensité. Dieu qui voit tout, qui voit les moindres détails.